elle avait parlé, en tout cas dans le papier qu'elle avait communiqué, elle avait bien fait remarquer que sur les comptes de bijoutiers qu'elle avait analysés, les comptes en question ne donnaient pas de vision d'ensemble. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'événements comptables discrets, mais qu'il était extrêmement difficile de reconstruire, à partir des résultats particuliers, un bilan global. Bon. Et vice-versa d'ailleurs. En fait, on trouve depuis longtemps des manuels de comptabilité marchande, et même des manuels de comptabilité marchande qui disent, j'en ai un là, je vous fais passer, désolé, c'est en anglais, bon, parce que c'est ça que j'ai, mais c'est un facsimilé, et qui montre très bien, vous verrez dans les comptes, il y a un compte d'actifs par marchandise qui permet de savoir qu'est-ce qui a été, combien il a payé pour son vin de Bordeaux et combien il a reçu au compte vin de Bordeaux, et donc quel profit le marchand, pris en exemple par M. Hamilton, puisque c'est Robert Hamilton, à la fin du XVIIIe siècle, quel profit a été tiré de ce compte de vin particulier. Mais ça, c'est la théorie, et c'est un peu comme le code de la route, c'est en milieu, parce que le code de la route prévoit des tas de choses, et puis on circule dans Paris, et on s'aperçoit que c'est pas comme ça que ça marche en pratique, et la comptabilité marchande, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il y a les manuels, il y a ce qui vous dit ce qui va se passer, et puis vous rentrez ensuite dans les comptes écrits, et ça se passe pas du tout comme ça, et vous êtes très malheureux. Enfin, moi, du moins, je suis très malheureux. Alors, il y a eu des tentatives d'explication. Bezo Gamé, qui est excusez-moi, j'avais un matériel à l'appui que je vous distribue, j'en ai plein, c'est sur le compte du CNRS, l'UNR
80-80.
Faut prendre l'argent là où il est, je ne sais pas
vraiment. On en tient
encore. Donc, Bezo Gamé, qui est un spécialiste anglais, le grand monsieur de la comptabilité, c'est quelqu'un qui a commencé à publier en 1947 et publie toujours aujourd'hui, ce qui, moi, personnellement, m'impressionne. Et donc, il a récemment essayé de pencher sur ces problèmes. Et lui a fait remarquer quelque chose qui m'a mis un petit peu sur la piste de mon raisonnement, qui était qu'au fond, si l'écrasante majorité des comptes marchands ne permettaient pas de dégager des informations fiables sur les taux de profit par activité, etc., ce qui aurait permis normalement de faire des choix de management, de gestion prospective sur les stratégies ensuite, Yamedi, c'est tout simplement que, au fond, ce n'était pas très utile parce que l'univers du marché moderne, un marché segmenté, un marché de niche, un marché très divisé, très fluctuant, avec des évolutions très rapides, ne permettait pas faire des prédictions, c'est-à-dire que le passé immédiat ne servait pas à grand-chose pour l'avenir immédiat. En pratique, savoir ce qui s'était passé pour une marchandise dans les 6 derniers mois, dans les 3 dernières années, ne permettait pas du tout de savoir ce qui allait se passer pour cette marchandise. Alors, évidemment, ça nous laisse avec la question de savoir pourquoi ces gens se sont fatigués à écrire des volumes, c'est peu de le dire, des bibliothèques entières patiemment recopiées en détail de comptes, de comptabilité, avec toute une série de choses qui sont rapportées là-dedans. Alors, l'explication qui est souvent donnée au départ, ça, j'ai lu ici et là, c'est effectivement le problème du livre qui fait foi. Puisque en law merchants, qui est l'équivalent du droit commercial pour les Anglais, qui s'établit en equity court à partir du 14e, 15e siècle environ, puis qui diffuse ensuite, enfin c'est compliqué parce que ça prend du temps à intégrer dans la canon law, mais au bout du compte, c'est comme chez nous, c'est comme en droit romain, le livre fait foi. C'est à ça qu'on aboutit au 18e siècle. Je ne connais pas bien la datation de départ, mais au 18e siècle, c'est fixé, que ce soit dans le domaine du common law anglo-saxon ou dans le domaine du droit romain, il faut absolument produire son journal si on veut prouver quelque chose en cas de litige. Bon, l'ordonnance de 1773 en France correspond à la même chose. Alors, le problème, c'est que c'est un raisonnement qui se heurte au fait qu'il n'y a pas qu'une transaction. Qui est enregistré. C'est-à-dire que la comptabilité marchande ne se limite pas à la liste des traces qui permettraient de porter témoignage en justice. Il y a beaucoup plus que cela. Il y a évidemment l'architecture merveilleuse du manuel de comptabilité qui prévoit jusqu'à 20 ou 25 livres différents, livres d'encaisse, livres de factures, livres, etc. Il y a toute une ribambelle. Bon, il y a la pratique qui est généralement beaucoup plus modeste, mais qui tout de même, généralement aussi, implique au moins un journal, un grand livre, et souvent un livre de caisse, et parfois d'autres livres de facturation, etc. Donc on va beaucoup plus loin déjà en volume, et on va également beaucoup plus loin en contenu, puisque sont repérées toute une série de choses, comme par exemple les lettres de change, dont on la trace par ailleurs, puisque la lettre de change, elle, évidemment, c'est foi en soi, hein, c'est une lettre au porteur. Donc simplement, il n'y aurait pas besoin de quoi faire un compte de lettres de change pour enregistrer des lettres de change qu'on a par ailleurs. Donc ça c'est un autre problème. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça, ou pourquoi les quantités, encore on pourrait arguer que c'est important de connaître la quantité vendue ou achetée parce que ça permet en justice, mais alors justement, l'enregistrement des quantités est très variable suivant les comptes. Beaucoup de marchands du 18e siècle, en tout cas ceux que j'ai vus, je ne dis pas que je suis loin d'avoir tout vu, mais j'en ai vu, je crois, une poignée, une douzaine, une quinzaine ou une vingtaine, et assez généralement, l'enregistrement des quantités est extrêmement variable. C'est-à-dire que certains marchands vont très soigneusement enregistrer les quantités, mais pas forcément toujours au même endroit. Ça peut être dans les comptes courants, ça peut être au contraire dans le journal, nulle part ailleurs, et puis d'autres vont simplement se contenter d'indications beaucoup plus restreintes. Donc le flottement de l'enregistrement renvoie donc à une norme qui est apparemment pas très claire aux yeux des praticiens, puisque même n'élabore pas collectivement quelque chose de très unifié, ce qui pose un problème, parce que s'il s'agissait véritablement d'un problème juridique, ça devrait être beaucoup plus unifié que ça, vous connaissez le phénomène. Donc, le renvoi aux idiosyncrasies personnelles hein, des acteurs, c'est-à-dire en gros au fait que tel marchand est soigneux, tel marchand écrit comme un cochon, tel marchand travaille bien, tel marchand passe ses nuits à le faire, et tel marchand préfère aller boire. Donc, c'est pas non plus très satisfaisant, puisque, là encore, soit c'est nécessaire, et à ce moment-là, je ne vais pas faire de l'économisme, mais quand même, sur le moyen terme ou long terme, on devrait voir se diffuser les bonnes pratiques, ou les pratiques les plus efficaces, qui seraient prouvées comme étant efficaces par la sélection naturelle et des gens qui ne les auraient pas utilisées et appliquées. Si ça n'est pas utile, à ce moment-là, on se demande pourquoi des gens qui sont par ailleurs parfaitement rationnels apparemment se fatiguent à passer leur nuit ou à faire passer des nuits à des comptables qui payent tout de même à remplir des grands livres et des journaux. Donc, la question, si vous voulez, après cette introduction trop longue, la question que je me suis posée, que je commence à me poser, alors c'est un petit peu comme Sylvain Piron, ça finira peut-être un jour par donner un papier, on n'en est pas encore tout à fait là, mais la question que je me pose est comment justifier effectivement, en pratique, la façon dont les comptabilités marchandes ont été rédigées et les usages dans la tête de leurs utilisateurs, et ça je pense qu'effectivement c'est un point extrêmement important, il faut seulement qu'on arrive à justifier une pratique aux yeux de celui qui la pratique, sinon on a un problème. Alors, l'autre point de départ de ma réflexion, c'était la question du crédit, parce que quand même, heureusement, c'est le contexte, et donc effectivement c'est l'autre source qui m'a amené à me poser des questions sur la façon dont ces comptes étaient gérés, puisque c'est Pierre Janin en particulier qui a 10 pages absolument parfaites dans Marchand du Nord, je crois que c'est, ou Marchand d'Europe, j'ai la référence pour la retrouver, où il démontre que l'acte d'échange, puisqu'après tout, chaque ligne de comptabilité est d'abord un acte d'échange, une transaction, et que en réalité, l'acte d'échange repose avant tout sur la cohérence entre la qualité apparente du bien échangé et sa qualité réelle. Or, à l'époque moderne, rien ne garantit cette cohérence. Parce qu'il n'y a pas de nomenclature, parce qu'il n'y a pas de standard, parce qu'il n'y a pas d'association professionnelle, d'inspecteurs, de système administratif étatique pour veiller à ce qu'il n'y ait pas de compris sur la marchandise, de répression des fraudes, etc., tout ça n'existe pas, que, en revanche, il y a effectivement des inspecteurs de produits, mais que c'est extrêmement compliqué avec des... Alors ça, c'est Philippe Minard qui fait des choses là-dessus sur l'emboîtement et la complexité de l'emboîtement entre les gens qui sont censés valider la qualité d'un produit et les gens qui sont censés le produire, le fait qu'il y a tout le temps une espèce de tension entre les deux, et surtout que compte tenu de l'immense multiplicité des qualités et des standards, au bout du compte, le consommateur final se trouve face à un produit qu'il peut toujours soupçonner. C'est-à-dire que les flux de marchandises ne sont pas assez contrôlés pour que le drap de Sedan qu'on vous vend vous puissiez absolument être sûr que c'est bien du drap de Sedan, même s'il est plombé de la bonne façon, qu'il y ressemble de très près, que vous êtes vraiment pas loin de Sedan. Même comme ça, il y a toujours un petit doute, parce que est-ce qu'on n'est pas en train d'essayer de vous refiler du verrier sous couleur de vous donner du Sedan. En gros, c'est ça. Et ce soupçon est absolument universel, puisque des produits même de, finalement, en apparence assez basiques. Bon, alors évidemment, Anne Wegener a pas mal travaillé sur le vin de Bordeaux, par exemple, et toutes les nomenclatures de vin que ça suppose, avec toutes les fraudes. Alors là, en vin, c'est encore plus grave, parce qu'encore un drap, vous pouvez découvrir, mais un vin, c'est vraiment pas utilisable. En revanche, bon là, c'est peut-être nous qui parle autobiographiquement, mais ça me touche encore plus. Mais même pour la farine, il y a tout un Cathy Matson, qui est une spécialiste des réseaux marchands aux États-Unis entre New York et les Caraïbes, a fait plusieurs pages montrant comment un des principaux problèmes au XVIIIe siècle dans le commerce de farine à direction des Caraïbes était les tromperies sur la qualité de farine. Et qu'à un moment donné, la place de New York, qui était le point tournant de réexportation de la farine en direction des îles à sucre, a vu sa position commerciale menacée du fait que les tromperies sur les qualités de farine étaient devenues suffisamment nombreuses et graves pour mettre en danger la réputation de la place, comme il le dit, il y a une version anglaise, dont je ne me souviens plus, mais qui est exactement parallèle et similaire à la version française. Alors, comment répondre à ce problème quand on est marchand ? C'est finalement ça, là je crois que je découvre rien, il y a tout au plus un peu de systématisation chez moi, mais je ne suis pas le premier à le dire. L'essentiel c'est de se reposer sur un réseau de connaisseurs. Alors ça peut être des connaisseurs au sens pratique, ou ça peut être une chaîne de gens qui tout au moins se connaissent, qui ne sont pas forcément des connaisseurs, mais qui se font suffisamment confiance pour des raisons diverses, pour que quand j'achète mon drap de Sedan, je sais que je ne l'achète pas en général, je l'achète à une personne dont l'usage m'a appris qu'elle me vendra effectivement du drap de Sedan et je n'aurai pas de problème avec. Donc c'est un rapport personnel. C'est toujours un rapport personnel et c'est toujours un rapport de confiance. Alors là, bon, dans mon papier, j'avais une citation qui est assez amusante, qui est assez tardive, hein, qui est des années 1812, donc pendant la guerre entre la fin des guerres napoléoniennes, la guerre entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Et c'est une citation d'un marchand bostonien relativement connu, Nathan Hackleton, qui est aussi un des fondateurs de l'industrie textile du Massachusetts dans les années 1810-1820. Et là, il commande sa marchandise à Londres, hein, c'est un importateur bostonien de produits londoniens depuis la fin des années 1780, début des années 1790, c'est quelqu'un de très expérimenté et fort riche, c'est un des marchands bostoniens les plus importants en 1812. Et il écrit en 1813 ceci à son frère qui est à Londres: « J'aimerais cependant avoir quelques bonnes marchandises pour moi, à condition que le prix en soit raisonnablement bas, disons 5000 livres. Si tu n'en as pas déjà acheté de ton côté, M. Stone est excellent juge des marchandises et j'aimerais que tu lui fasses les acheter si tu ne veux pas le faire toi-même. J'ai environ 2500 livres entre les mains de Lodge et Trotter, peu importe. Il est indispensable que je te donne des instructions particulières puisque je souhaite que les marchandises soient de la sorte la plus ordinaire, disons des batistes, des calicots, des toiles à chemise, des guingans et pour un montant de 3000 ou 4000 livres et 2000 livres dans des lainages de base. Du même genre que dans ma lettre précédente pour des marchandises dans leur gamme. Je laisse cela cependant à ton jugement d'après l'état du marché, la perspective de paix ou d'une continuation de la guerre pour ce qui est d'acheter ou de ne rien acheter. » Bon, qu'est-ce qu'il fait ? Il commande, il connaît bien le marché bostonien, très bien, il importe les tissus anglais depuis longtemps, il pose donc un cadre de référence de ce qui lui semble idoine, mais c'est un cadre de référence qui n'est pas contraignant, qu'il envoie à son frère. Il précise, ça doit être son frère, que de son point de vue, le meilleur acheteur, le meilleur juge qu'il connaît sur l'adresse de Londres n'est pas son frère, mais le dénommé Stone, et que si son frère n'a pas déjà des choses à lui vendre, il aimerait bien que ce soit Stone qui s'en occupe. Ce qui est intéressant parce que ça veut dire qu'il accepte l'idée que pour garder son frère comme commissionnaire, comme agent à Londres, il est prêt à renoncer à la plus-value que représente la qualité de connaisseur du dénommé Stone, donc à prendre quelqu'un d'un petit peu moins compétent.